Chapitre 8. Cet adieu au grand air, voulu par Hélène, ne résolut aucun des doutes qu'André avait dans l'âme. Quelles pouvaient être les secrètes raisons de ce départ subit? Il cherchait vainement à pénétrer le mystère, les doutes l'accablaient. Pendant les premiers jours, les assauts de la douleur et du désir furent si cruels qu'il pensa mourir. La jalousie qui, après les premiers accès, s'était dissipée devant l'ardeur persistante d'Hélène, ressuscitait en lui, évoquée par les imaginations impures. Et le soupçon qu'il y eût un homme au fond de cette ténébreuse intrigue lui causait un tourment insupportable. Parfois, il se sentait envahi d'une basse colère contre l'absente, d'une rancœur amère, presque d'un besoin de vengeance, comme si elle l'eût mystifié et trahi pour se livrer à un autre amant. Parfois aussi, il croyait ne plus la désirer, ne plus l'aimer, ne l'avoir jamais aimée. Ce n'était pas pour lui un phénomène nouveau, cette cessation passagère d'un sentiment, cette sorte de syncope spirituelle qui, au milieu d'un bal par exemple, lui rendait complètement étrangère la femme adorée, lui permettait de prendre part à un souper joyeux, une heure après en avoir bu les larmes. Mais ces oublis ne duraient pas. Le printemps romain fleurissait avec une allégresse inouïe. La ville de travertin et de briques absorbait la lumière comme une forêt avide, les fontaines papales se dressaient dans un ciel plus limpide qu'une pierre précieuse, la place d'Espagne était embaumée comme une roseraie, et la Trinité des Monts, au sommet du grand escalier peuplé d'enfants, ressemblait à un dôme d'or. Sous les excitations qui lui venaient de la nouvelle beauté de Rome, tout ce qui lui restait du filtre d'Hélène dans le sang et dans l'âme se ravivait, se rallumait. Et il était troublé jusqu'au fond par d'invincibles angoisses, par d'implacables tumultes, par d'infinissables langueurs, comme en un étrange renouveau de sa puberté. Un soir, chez les Dolce Buono, après le thé, comme il était resté le dernier dans le salon plein de fleurs où vibrait encore une cachucha de raft, il parla d'amour à Blanche. Et il n'eut pas lieu de s'en repentir, ni ce soir-là, ni plus tard. Son aventure avec Hélène Mouti lui avait immédiatement donné aux yeux des femmes un haut degré de prestige. Un souffle de faveur l'enveloppa. Et bientôt, par un effet que produit souvent la contagion du désir, ses succès devinrent surprenants. D'ailleurs, sa réputation d'artiste mystérieux le servait. Il avait écrit sur l'album de la princesse de Ferentino deux sonnets restés célèbres où, comme en un diptyque ambigu, il louait tour à tour une bouche diabolique et une bouche angélique, celle qui perd les âmes et celle qui dit « Ave ». Il répondit aux avances sans une minute d'hésitation. À cette sorte de recueillement opéré en lui par l'empire exclusif d'Hélène, succédait maintenant une sorte de dissolution. N'étant plus retenu par les liens de feu qui les serraient en un faisceau, ses énergies retournaient à leur désordre primitif. Ne pouvant plus se conformer, s'adapter, s'assimiler à une forme supérieure et dominatrice, son âme ondoyante, variable, fluide, virtuelle, se transformait, se déformait, prenait toutes les formes. Il passait d'un amour à un autre avec une incroyable légèreté. Il caressait plusieurs amours à la fois. Il tissait sans scrupule une grande trame de tromperie, d'artifice, de mensonge, pour y prendre autant de proies que possible. L'habitude de la fausseté lui émoussait la conscience. Mais en lui persistait un instinct vivace, impitoyablement vivace, le dégoût de tout ce qui l'attirait sans le captiver. Sa volonté, inutile comme une épée de mauvaise trempe, était une arme pendue au flanc d'un homme ivre ou inerte. Parfois, cependant, le souvenir d'Hélène, reparu à l'improviste, lui remplissait le cœur. Et alors, ou bien il essayait de se soustraire aux mélancolies du regret, ou bien, au contraire, il se faisait un plaisir de revivre, en son imagination viciée, l'outrance de cette vie, et d'y trouver un stimulant pour de nouvelles amours. Il se répétait volontiers à lui-même les paroles du Lied « Rappelle-toi les jours éteints, et pose sur les lèvres de la seconde des baisers aussi doux que ceux donnés à la première il n'y a pas longtemps. » Mais déjà, la seconde lui était sortie de l'âme. Au début, il avait parlé d'amour à Blanche Dolce Buono, presque sans y penser, parce qu'il subissait, d'instinct, le charme d'un reflet, parce que cette femme était l'amie d'Hélène. Peut-être aussi germait en son cœur la petite graine de sympathie semée par les paroles de la comtesse Florentine au dîner chez les Doria. Qui saurait dire par quel mystérieux progrès un contact quelconque, spirituel ou matériel, même insignifiant, entre un homme et une femme peut engendrer et nourrir chez tous deux un sentiment latent, inaperçu, insoupçonné, que, longtemps après, tout d'un coup, les circonstances feront ressurgir. Blanche était le type idéal de la beauté florentine, telle que l'a rendue Ghirlandaio dans le portrait de Jeanne Tornabuoni qui est à Sainte-Marie-Nouvelle. Elle avait un clair visage ovale, le front large, haut et candide, la bouche affable, le nez un peu relevé, les yeux de cette couleur d'un bistre sombre loué par Firenzuola. Elle aimait à disposer ses cheveux en bandeaux débordant sur les tempes jusqu'au milieu des joues, selon la mode ancienne. Son nom lui convenait bien. Elle apportait dans la vie mondaine une bonté native, une grande indulgence, une courtoisie égale pour tous, un parler mélodieux. En somme, c'était une de ces femmes aimables, sans profondeur ni d'intelligence ni d'âme, un peu indolente, qui semble née pour vivre en gaieté, pour se bercer en de discrètes amours, comme les oiseaux sur les branches fleuries. Lorsqu'elle entendit les phrases d'André, elle s'écria, avec une gracieuse surprise, « Oubliez-vous si vite, Hélène ?» Puis, après quelques jours de gracieuses hésitations, il lui plut de céder. Et souvent, elle parlait d'Hélène au jeune infidèle, sans jalousie, avec candeur. « Mais comment se fait-il qu'elle soit partie cette année plus tôt que d'habitude ?» lui demanda-t-elle un jour en souriant. « Je l'ignore, » répondit André, qui ne put dissimuler un peu d'impatience et d'amertume. « Alors, tout est fini ?» « Bien fini ?»« Je vous en prie, Blanche, parlons de nous-mêmes, » interrompit-il d'une voix altérée. Ses discours le troublaient et l'irritaient. Elle resta un moment songeuse, comme si elle eût cherché à deviner une énigme. Puis elle sourit en secouant la tête, comme quelqu'un qui renonce, avec une ombre fugitive de mélancolie dans les yeux. « C'est l'amour, » dit-elle, et elle rendit à André ses caresses. André, la possédant, possédait avec elle toutes les gentilles dames florentines du XVe siècle, celles pour qui le magnifique chantait
« E si vede in ogni lato che il proverbio dice il vero, che ciascun muta pensiero come l'occhio è separato. Vedesi cambiare amore, come l'occhio sta di lunge, così sta di lunge il core, perché appresso un altro il punge. Con qual tosto e si congiunge, con piacere e con diletto ?
On voit bien partout la vérité du proverbe, que toujours la pensée change quand l'œil n'est plus à portée. On voit l'inconstance en amour, et dès que l'œil s'éloigne, le cœur aussi s'éloigne. Car ensuite, un autre objet le frappe, auquel bientôt il s'attache avec plaisir et délices. L'été venu, lorsqu'elle fut sur le point de quitter Rome, à l'heure des adieux, elle lui dit, sans cacher sa douce émotion, « Quand nous nous reverrons, vous ne m'aimerez plus, je le sais. C'est l'amour, mais souvenez-vous d'une amie. » Il ne l'aimait pas. Cependant, par les journées chaudes et lourdes d'ennui, certaines cadences molles de cette voix lui revenaient dans l'âme comme la magie d'une rime, et lui suggérait la vision d'un jardin rafraîchi par des fontaines, où Blanche, en compagnie d'autres femmes, se serait promenée en jouant de la viole et en chantant, comme dans une vignette du songe de Polyphile. Et Blanche disparut, et d'autres lui succédèrent, parfois deux ensemble. Barbarella Viti, la Mascula, une superbe tête d'Éphèbe, telle que l'aurait peinte Euphronios au fond d'une coupe, la comtesse de Lucoli, la dame aux turquoises, une Circé de Dossodossi, avec de très larges yeux pleins de perfidie, changeant comme les mers d'automne, gris, bleu, vert, indéfinissable. Liliana Thin, une lady de 22 ans, resplendissante de cette prodigieuse carnation faite de lumière, de roses et de lait, que possèdent seules les babies des grandes familles anglaises, peint par Reynolds et Gainsborough, la marquise de Chauny, une beauté du directoire, une récamier au long et pur ovale, au cou de cygne, au sein droit, au bras de bacchante. Donna Isotta Celesi, la dame aux émeraudes, qui tournait avec une lente majesté bovine sa tête d'impératrice parmi la scintillation des énormes gemmes, parmi la scintillation des énormes gemmes héréditaires, la princesse Kalivoda, la dame sans joyaux, qui, sous la fragilité de ses formes, avait des nerfs d'acier pour le plaisir et, dans la délicatesse de ses traits de cire, ouvrait des yeux voraces de lionne. Chacun de ses amours lui apporta une dégradation nouvelle. Chacun l'enivra d'une mauvaise ivresse sans le satisfaire. Chacun lui enseigna quelque particularité, quelque subtilité du vice qui lui était encore inconnue. Il avait en lui-même les germes de toutes les infections. Corrupteur, il se corrompait. Le mensonge engluait son âme comme d'une matière visqueuse et froide qui, chaque jour, devenait plus tenace. La perversion des sens lui faisait rechercher et cultiver chez ses maîtresses tout ce qu'elles avaient de moins noble et de moins pur. Une basse curiosité le poussait à choisir les femmes qui avaient la pire réputation, un goût cruel de souillure le poussait à séduire les femmes réputées les plus honnêtes. Entre les bras de l'une, il se rappelait une caresse de l'autre. Et parfois, ce fut surtout lorsque l'annonce du second mariage d'Hélène avec Lord Humphrey Heathfield eut rouvert pour quelque temps sa blessure, il lui plaisait de substituer à la nudité présente la nudité rêvée d'Hélène, de donner la forme tangible pour support à la volupté idéale, et il entretenait cette image avec un effort si intense qu'à la fin, son imagination parvenait presque à posséder l'ombre comme une réalité. Cependant, il n'avait aucun culte pour les souvenirs de son ancien bonheur, et ses souvenirs lui fournissaient même des prétextes pour quelque nouvelle aventure. Par exemple, ce fut à la Galerie Borghese, dans la mémorable salle des miroirs, qu'il obtint de Liliane Thin la première promesse. Ce fut à la Villa Médicis, dans le mémorable escalier vert qui conduit au Belvédère, qu'il entrelaça ses doigts aux longs doigts d'Angélique de Chauny. Et ce fut le petit crâne d'ivoire, ayant appartenu au cardinal Inmenreth, le joyau funèbre marqué au nom d'une Hippolyta inconnue, qui éveilla en lui le caprice de tenter Donia Hippolyta Albonico.